8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique, pour les jeunes diplômés qui se lancent ou des salariés plus expérimentés qui veulent devenir entrepreneurs, c'est l'occasion de dialoguer avec le coach. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous avez fondé Afrique Search, société de conseil en ressources humaines, et vous écoutez chaque mois chez 8 milliards de voisins. Eh bien, des voisins et des voisines qui nous appellent avec des projets plus ou moins avancés d'ailleurs pour participer à l'émission. D'ailleurs, je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 7 64 45 51 41. C'est aussi notre compte WhatsApp sur lequel vous pouvez poster vos messages. En deuxième partie d'émission, débat avec des chefs d'entreprise. Maintenant que nous avons plusieurs années de recul, on va se poser la question: où en est le rêve de la Startup Nation en Afrique? Mythe ou réalité? Didier, vous croisez et très souvent sur le continent de jeunes startups qui ont gagné des concours, tout le monde croit en leur projet, mais qu'en est-il dans la réalité? Ça patine et parfois même ça recule et il y a beaucoup d'échecs. Combien survivent à l'épreuve des marchés, à l'épreuve des logiques complexes de la digitalisation et surtout avec quel accès au financement? Évidemment, on va en parler. Vous êtes bien placé pour nous raconter toutes ces histoires de faillite ou de succès de start-up. Et il y aura également Eric Kakou qui nous rejoint, économiste ivoirien, fondateur de la société ES Partners, et Corinne Maurice-Ouattara, également à Abidjan, qui est directrice générale de Maurice Communication Marketing et qui a conçu le Pass Santé Mousseau, donc une start-up avec un dossier médical personnalisé, matérialisé par un objet, et tout ça associé à une plateforme en ligne. C'est ce qui s'appelle une start-up, pas de doute, hein, Didier?
Ah, c'est clair, avec un potentiel de croissance, mais encore faudrait-il
dépasser les problèmes.
Concrétiser effectivement la croissance.
Eh bien, on va en discuter. Mais tout de suite, vos appels pour vos questions au coach Didier Akwété, 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Steve Adouala au Cameroun, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous.
Moi aussi, je suis très heureux d'être en ligne avec vous.
Bonjour Steve, comment allez-vous?
Je vais bien, coach Didier.
Steve, vous êtes diplômé d'une maîtrise en économie monétaire, certifié Trade Finance, Université de Yaoundé 2. Vous avez déjà une bonne expérience, 12 ans dans la banque, et vous avez créé il y a 5 ans un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des PME au Cameroun et dans la sous-région. Ça répondait à un réel besoin du marché, hein, la preuve, vous avez des clients, Steve?
Oui, effectivement. Il y a à peu près, comme vous l'avez si bien dit, 5 ans, j'ai fait le saut entrepreneurial en partant du secteur bancaire pour me mettre en fait à cheval entre les banques et les porteurs de projets, en mettant en place donc le cabinet PM Advice.
En quoi consiste votre activité finalement?
Alors notre activité consiste en un accompagnement au quotidien des PME sur des problématiques diverses. On intervient depuis l'idée de création d'entreprise, c'est-à-dire que on les aide à l'accompagnement à la création d'entreprise, on les aide dans le cadre de leur organisation, de leur structuration. On les aide également dans le cadre du volet business development, c'est-à-dire tout ce qui concerne le développement commercial, qui est une des composantes assez importantes dans leur activité. Mais le cœur de métier demeure l'accompagnement au financement bancaire.
Oui, parce qu'il faut apprendre dire à parler avec les banques, c'est ça.
Voilà, exact.
Et mais, vos clients, c'est qui? Des PME, des toutes petites entreprises?
Oui, nos clients sont principalement constitués des toutes petites entreprises, des toutes petites industries et de quelques PME de taille moyenne.
Mais vos clients, enfin bon, une partie de vos clients potentiels qui seraient susceptibles d'appeler chez nous pour poser des questions au coach, sauf que chez nous c'est gratuit. Alors certes, c'est le temps d'une émission.
Mais moi, ça dure 2 minutes. Hein, alors qu'à mon avis, chez Steve, ça doit prendre quelques jours.
C'est ça, mais est-ce qu'ils ont de quoi se payer vos services?
Je dois dire que ce n'est pas toujours très évident pour ces jeunes entreprises-là. Du coup, on a en train de travailler sur la durée. On a mis en place une offre de prix assez accessible pour jouer un peu sur l'effet de levier en se disant que plus on aura de PME, on pourra rentabiliser sur la durée.
Donc, augmenter votre volume de clients, vous proposez d'étaler aussi les paiements pour vos clients qui sont des entreprises naissantes et qui sont dans la galère, qui ont très peu de moyens et le peu de financement qu'elles ont, elles les mettent déjà pour la création de l'entreprise.
Tout à fait. Parfois, on le fait totalement gratuitement parce qu'on a essayé de mettre en place, dans le cadre toujours de ce processus, un incubateur privé qui permet de maintenir la flamme entrepreneuriale chez la plupart de nos clients.
Et pour maintenir la flamme entrepreneuriale, comme vous dites, Steve, vous avez aussi un événement mensuel qui s'appelle le Coffee Time. C'est à Douala, hein. Une plateforme qui permet aux entreprises de rencontrer, d'échanger aussi avec des acteurs du secteur bancaire. Et c'est un rendez-vous qui a eu tout de suite beaucoup de succès.
Effectivement, dès la première édition, qu'on a d'ailleurs tenu dans la salle des actes du cabinet, on attendait à peu près 40 promoteurs de PME, mais ce soir-là, on s'est retrouvé avec à peu près 75 promoteurs de PME.
Oui.
Donc on a dû fermer, parce que c'était tellement sollicité que pour la prochaine édition, on a plutôt opté pour une salle plus grande qui peut accueillir à peu près 200 PME.
Ouais, c'est un peu comme chez Afrique Talent, on fait la queue hein, pour entrer
parfois. C'est ça, effectivement. Et parfois, on joue à guichet fermé.
Oui, alors vous êtes une entreprise de conseil aux PME et pourtant, vous avez vous-même des questionnements en tant qu'entreprise hein, pour grandir. On vous écoute, c'est le moment de dialoguer avec le coach Didier Akwété.
Déjà, merci coach. Comme j'ai souvent tendance à le dire, l'expérience entrepreneuriale... on la vit au quotidien et on est toujours face à des difficultés quand on grandit. C'est un peu comme la croissance de l'enfant. Alors, parmi mes questions, je vais commencer par la première. Je passe environ 2 heures par jour à former mes collaborateurs au métier de la banque pour qu'ils puissent comprendre par eux-mêmes les besoins des clients et les intérêts des banques. Et je voudrais savoir comment trouver une solution plus efficace pour former mes collaborateurs, parce que je dois vous avouer que ça m'épuise suffisamment.
Parce qu'en fait, avant de recevoir vos clients, vous envoyez vos commerciaux sur le terrain, et ils font de la prospection en ligne, etc. Et quand vous dites ça m'épuise, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement?
En réalité, ça m'épuise un peu parce que le volet formation prend à peu près 2 heures de ma journée. Et puis après, il y a le volet analyse de dossier de financement, il y a le volet suivi même du développement de l'activité. Donc moi-même, je suis un grand commercial pour mon cabinet. Donc vous voyez que si je dois le faire, je le fais déjà depuis un certain nombre d'années. Et puis, je vous avoue, à un moment donné, c'est un peu difficile pour moi ce management-là.
C'est-à-dire que Steve, il n'a pas un problème de client, il a un problème de collaborateur, de ressources humaines.
Bah, oui, effectivement. En fait, Steve, d'abord, bravo, parce que sur les plus de 100 millions de TPE-PME qu'on a sur le continent, il y a un besoin d'accompagnement énorme. Et donc, vous répondez à un vrai besoin.
Vous pouvez faire de la concurrence à Didier Akwété. Hein. Il y a de la place.
Sur plus de 100 millions de PME, TPE, je crois qu'il faut être beaucoup plus nombreux que ça. Non, donc c'est vraiment génial parce que c'est vraiment ça qui manque aux TPE, PME, l'accompagnement. Quand je lisais votre document, les aider à rédiger un business plan avec des petits tarifs que vous faites, l'accompagnement, trouver le financement, c'est vraiment ça en fait le cœur du problème des TPE pour qu'elles puissent grandir un petit peu plus vite. Avec les limites que nous connaissons, bien sûr, en termes de capacité. Maintenant, je crois que c'est dans le choix des collaborateurs qu'il faut que vous soyez peut-être un peu plus vigilant. Pourquoi aujourd'hui, vous étiez banquier vous-même, les banques commerciales ne comprennent pas les PME, les TPE, parce qu'elles ne sont pas articulées pour faire ce genre d'accompagnement. Donc, à mon avis, dans le recrutement de vos collaborateurs, veillez à prendre des gens qui ont plutôt un profil entrepreneur, avec une dose de capacité d'analyse financière. Bon, bien sûr, ils vont chercher du business, donc il faut qu'ils sachent aller chercher du business, mais qu'ils comprennent comment le cycle de l'entrepreneur se déroule. Et quand on a été entrepreneur ou géré une entreprise, on a tout de suite des réflexes que quelqu'un de normal qui analyse un dossier client n'a pas. Maintenant, puisque vous avez déjà vos collaborateurs, effectivement, c'est de vous assurer que pendant qu'ils sont chez vous, ils sont eux-mêmes des intrapreneurs chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la montée en puissance de leur profil doit se construire, comme vous êtes en train de le faire, avec un cycle qui en fait quasiment des patrons de TPE à l'intérieur de votre structure de conseil. Parce que ce n'est que comme ça qu'ils vont appréhender différemment les profils d'entreprise que vous ramenez, que vous accompagnez. Et moi, j'ai constaté ça parce que ça fait 10 ans qu'on a lancé ce forum des PME qu'on fait chaque année avec 300-400 PME qui viennent, ou des programmes d'appui aux PME que nous avons fait. En fait, c'est vraiment le profil de l'accompagnateur qui fait la différence. Et donc, votre business, sa croissance va être liée au profil des collaborateurs que vous allez amener. Si vous amenez un banquier classique et vous avez été banquier, à mon avis, je ne dis pas que c'est perdu d'avance, mais ça n'aura pas la même dynamique que ce que vous faites, que vous espérez. Si vous ramenez quelqu'un qui a fait du venture capital, ça change complètement. Si vous amenez quelqu'un qui est un jeune entrepreneur, qui est passé par cette petite vallée de la mort et qui a discuté avec des banquiers pendant 2-3 ans, vous allez voir que vous redimensionnez, vous changez complètement le profil de vos équipes. Donc, j'aurais tendance à dire, au lieu de ces 2 heures que vous passez sont utiles pour
tous les jours.
Oui, tous les jours, ça fait beaucoup. Mais c'est parce qu'à mon avis, en amont, le profil, vous allez peut-être me répondre, le profil de vos collaborateurs que vous avez choisi est peut-être pas tout à fait celui que j'ai décrit. Et puis surtout, la manière dont vous construisez leur montée en compétences. Si vous avez un plan de développement sur la base des 2 heures que vous passez, j'espère qu'au bout de 2, 3 ou 4 semaines, ils sont aguerris par rapport à la dynamique que vous donnez à votre business et au profil des TPE-PME, qui ne sont pas du tout les profils des entreprises classiques.
Steve, vous avez 14 collaborateurs plus 4 consultants externes. D'où viennent-ils?
Alors, les 14 collaborateurs, il faut dire que j'ai démarré le cabinet à peu près, j'étais seul au départ sur 6 mois. Et puis après, j'ai recruté 2 collaborateurs. Et puis, il a semblé urgent pour moi d'avoir une assistante pour la gestion de mon emploi du temps. Donc, on s'est retrouvé à 4 collaborateurs sur à peu près 2 ans et demi. Mais depuis à peu près 18 mois, c'est tellement de sollicitations et tellement on a de l'accumulation en termes de sollicitations qu'il a fallu déjà étendre un peu le champ d'action de l'équipe. Donc, je me suis retourné vers des profils, en fait, d'étudiants d'école de commerce qui me semblaient déjà avoir des connaissances un peu plus stéréotypées.
Oui, mais donc, ne venant pas de la banque et de la finance, ne venant pas de l'entrepreneuriat, ce que je comprends, c'est que vous avez grossi vite, finalement, et vous n'arrivez plus à gérer à la fois vos équipes et vos clients.
Voilà, exact.
Oui, en fait, Steve, ce que vous avez fait, c'est que, si vous étiez une grosse entreprise du style, un gros cabinet conseil, où, vous savez, on parlait souvent des Big Five, les cabinets de conseil et d'audit, qui prennent les jeunes diplômés, et les forment en interne. Et donc, ces jeunes vont passer quasiment 1 an à être formés avant d'être vraiment opérationnels.
Mais ils sont dilués dans des très très grosses équipes. Il y a beaucoup de main-d'œuvre pour les former.
Bien sûr. Or, Steve n'est pas dans cette configuration. Donc, Steve, c'est vrai que c'est peut-être cette population que vous pouviez intégrer à ce stade de développement de votre entreprise. Mais clairement, vous êtes dans un processus où vous êtes en fait de créer un cycle de formation pour ces jeunes qui arrivent. Et donc, c'est normal que ça vous prenne autant de temps et ça vous prend beaucoup de temps. Mais une fois après qu'ils sont aguerris, s'ils ne vous quittent pas, ils peuvent faire le job. C'est pour ça que, dès le début, sans connaître le profil de vos staffs, je disais, changez le profil de ceux que vous allez recruter prochainement. Il faut qu'ils aient un petit peu d'expérience, soit en entrepreneuriat ou un premier job dans une structure financière, pas forcément une banque commerciale avec 5-10 ans d'expérience. Vous n'avez pas besoin de ça.
Un job où ils étaient très autonomes.
Où ils étaient autonomes, où ils comprenaient ce que c'est le développement d'une entreprise, la naissance d'une start-up et sa croissance. Et s'ils ont ça, avec un petit bout d'expérience, même si c'est une expérience...
Pourquoi pas un ex-salarié d'un incubateur, par exemple
Par exemple, ou des jeunes entrepreneurs qui ont lancé une petite boîte
c'est
et qui ont échoué.
C'est quand même pas simple à trouver, très honnêtement.
Il y a plein de jeunes qui s'essaient à l'entrepreneuriat.
Un entrepreneur, un jeune qui a été entrepreneur, il n'a pas envie de revenir salarié chez Steve.
Ben, il a échoué, il cherche un job. Il cherche un job et au contraire, cette expérience va servir à l'entreprise de Steve parce qu'il apporte un échec qui devient un succès pour un entrepreneur. Vous savez, on dit toujours ce sont des échecs dont naissent les succès. Et toutes les grandes histoires qu'on connaît, Steve le sait parfaitement, que ce soit les Apple, que ce soit les Amazon, que ce soit les Facebook, etc. Il y a eu des échecs considérables avant d'arriver à ces étapes.
Il ouais. y a aussi des jeunes qui veulent être entrepreneurs une partie de leur semaine, hein, ou le soir, par exemple, tout en étant salariés parce qu'ils ne sont pas encore assez solides pour développer leur business. Ça aussi, ça peut être des profils intéressants. Il y a de plus en plus de jeunes comme ça qui veulent avoir deux casquettes.
Qui peuvent venir travailler à partir de 16-17 heures jusqu'au soir. De toute façon, on est de toute
Donc
façon...
Donc il faut que Steve soit plus souple, plus ouvert.
Absolument, absolument.
Vous avez une deuxième question, Steve.
Oui, ma deuxième question était celle relative à l'équipement de mon centre d'appel. Parce qu'en réalité, pour développer davantage de proximité avec les problématiques des PME, surtout celles qui ne sont pas situées dans notre environnement géographique immédiat, j'ai lancé la mise en place d'un centre d'appel. Et dans le cadre de ce centre d'appel, j'ai sollicité l'accompagnement d'une banque qui nous a financés. Et aujourd'hui... ce financement n'a pas permis de boucler complètement la mise en place de ce centre d'appel. Donc, je souhaiterais pouvoir avoir des alternatives. Je ne sais pas si le coach Didier peut m'en proposer quelques-unes. Mmh.
C'est drôle, c'est l'ancien banquier qui nous parle. Qui ne connaît que les banques.
Non, mais en fait, Steve, ce que vous faites, c'est, bon, c'est un business, mais qui répond à un vrai besoin, parce que ces TPE-PME, quand elles vont grandir, elles vont créer des jobs et créer de la richesse. Et donc, aujourd'hui, vous avez les fonds d'assistance technique de quelques, bon, ce qu'on appelle les DFI, ou les fondations, comme Mastercard, comme Visa, ou des fonds de garantie comme African Guarantee Fund, Anaerobi, qui accompagnent justement des structures comme les vôtres, et qui ont des fonds d'assistance technique qui sont des fonds gratuits. Qu'ils vont vous octroyer. Si en plus vous avez un focus, par exemple, sur les femmes entrepreneurs, ils gèrent un programme à FAWA, qui est un programme de la BAD qu'ils gèrent, où il y a des fonds d'assistance technique pour accompagner des structures comme les vôtres. Donc, c'est sous forme de dons. Et donc, à mon avis, comme vous avez fait une grosse partie du job déjà sur fonds propres, vous pouvez aller solliciter ces organisations.
Des fonds d'assistance technique qui ont intérêt à ce que l'écosystème se développe, en fait. Hein, parce que ça va retomber ensuite dans leur escarcelle de clients.
C'est ça leur objet. Ouais. Parce que comme ce sont des fonds, des fondations ou des organisations qui font la promotion de petites entreprises, elles ont intérêt à ce que l'écosystème fonctionne pour que leur financement à ces TPE-PME fonctionne. Donc, à mon avis, ce genre de guichet peut être intéressant à les regarder. Et souvent, comme ils ont aussi des programmes, vous pourrez aussi tout à fait peut-être rentrer dans un de leurs programmes où ils vont vous confier un portefeuille de TPE-PME que vous allez accompagner en plus de ce fonds d'assistance technique qui peut permettre de finaliser le centre d'appel.
Vous avez été voir du côté de ces fondations, de ces fonds d'assistance technique, Steve ?
Non, pas encore.
Vous avez un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2023 qui s'annonce bien. Hein ?
Oui, effectivement, parce que je vous parlais de deux leviers, des très petites entreprises et des PME de taille moyenne. Et ces PME de taille moyenne, pour la plupart, constituent en fait mes anciens clients en portefeuille, qui aujourd'hui, quand j'étais dans le portefeuille bancaire, qui aujourd'hui me sollicitent parce qu'ils ont compris en fait le rôle que je jouais, et donc me confie l'ensemble de leurs dossiers de renouvellement, d'extension ou
de
développement.
Voilà, exact. Non, mais ça crée aussi un volant d'activité.
Qui me fait gagner quand même un peu, voilà, qui me fait gagner beaucoup plus que ce qu'on gagne avec la PME, la TPE, et nous permet d'équilibrer aussi en termes de charges et tout ce que ça comporte.
Donc, vous accompagnez à l'heure actuelle à peu près 45 entreprises. Ce qu'il faut, c'est augmenter le volume.
Oui.
Pour ça, il faut régler le problème des ressources humaines et pouvoir accompagner plus vite et plus, c'est ça
Oui, effectivement. Et puis, à terme, des entreprises de taille plus importante viendront vous voir.
Pour facturer davantage aussi.
Bah aussi, oui. Parce que vous voyez, vraiment, très rapidement, nous, on a eu à développer des programmes d'appui aux PME et des PME qui font un certain chiffre d'affaires et des petites qui ont plus ou moins les mêmes problématiques d'organisation. Et quand je vois les champs que vous couvrez, effectivement, assez rapidement, vous allez avoir des PME qui font 100, 200, 300 millions de CFA de chiffre d'affaires qui viendront vous voir, parce que les problématiques sont les mêmes, mais juste à des niveaux différents.
Exact.
Non, mais moi c'est super, parce que ça répond à un vrai besoin. Et on a besoin de structures comme celle-là encore plus sur le continent.
Steve, merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous souhaite une très bonne journée et évidemment une rapide progression à Douala, au Cameroun. Merci à vous.
Merci Steve. Énormément. Et n'arrêtez pas d'agir comme ça pour les 8 milliards de voisins.
On y compte bien, avec l'aide du coach, bien évidemment. Et bien sûr, les voisins et les voisines, si vous aussi vous entreprenez depuis quelque temps ou si vous comptez entreprendre et que vous avez des questions essentielles à poser au coach, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, deuxième partie, Startup Nation en Afrique, mythe ou réalité, ça sera juste après Mamani Keïta, Kera Kera ou Comme un parfum d'Ethio Jazz. De voisins sur RFI. Nous sommes bien sûr en compagnie du coach Didier Akwété, président fondateur d'Afrique Search. Et deuxième partie de notre émission, Startup Nation, mythe ou réalité. Didier Akwété, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement qu'est-ce qui rentre dans la définition d'une startup aujourd'hui sur le continent africain ? Toutes les petites, moyennes entreprises ne sont pas des startups.
Non, c'est un petit peu l'appellation qu'on utilise maintenant pour les entrepreneurs, mais en fait, une startup, comme on dit start, c'est une entreprise qui démarre, oui, qui généralement est assez petite et qui va passer par une phase un peu de test, de prototypage et voir si son modèle fonctionne et ensuite grandir. Et donc, généralement, il y a parfois un petit côté innovation là-dedans qui
donc
permet
digital,
d'attirer des investisseurs.
Numérique.
Oui, mais pas forcément. Il peut avoir du digital, du numérique. Mais en gros, c'est une entreprise qui démarre, une petite entreprise qui démarre et qui, a priori, pourrait connaître un cycle de croissance plus plus rapide qu'une entreprise traditionnelle, née aujourd'hui, on appelle start-up, toute jeune entreprise qui démarre. Et donc
on a dans toutes les capitales des incubateurs pour faire émerger de jeunes pousses. Hein, voilà un peu le vocabulaire. On est en ligne avec Eric Kakou, économiste ivoirien, fondateur de la société ES Partners. Bonjour Eric Kakou.
Bonjour à vous.
Et Corinne Ouattara, directrice générale de Maurice Communication Marketing, une start-up qui a conçu un pass santé, le pass santé Mousseau, qui permet d'avoir son dossier médical personnalisé associé à une plateforme en ligne. Et justement, Corinne Ouattara, je commence avec vous pour répondre à la question Startup Nation, mythe ou réalité. Vous allez nous raconter en quelques mots votre parcours avant cette start-up de pass santé. En fait, c'est votre deuxième start-up. En 2010, vous aviez déjà monté une première start-up?
Alors oui, en 2010, j'avais monté une entreprise qui faisait dans l'événementiel, les cadeaux d'entreprise. Et puis avec la crise post-électorale, j'ai carrément tout perdu.
Donc là, vous avez misé sur la santé connectée, qui est considérée comme un secteur très porteur hein, pour pallier les insuffisances du système de santé. Bon, là, en l'occurrence, en Côte d'Ivoire, hein, manque de personnel qualifié, manque d'infrastructures, etc. On se souvient notamment en 2014 du décès de la mannequin Awa Fadiga, qui avait été agressée dans un taxi, qui avait été transportée dans le centre hospitalier de Cocody. Elle est décédée quelques jours plus tard. Le centre hospitalier n'avait pas accès à son dossier médical, n'avait pas l'assurance financière aussi qu'elle pouvait payer. C'est dans ce contexte que vous avez monté cette start-up pour pallier des insuffisances du système de santé?
C'est effectivement cela. Tout est venu en 2014 quand cet événement s'est produit. Il y a la population qui effectivement se plaignait de l'incompétence des acteurs de santé, du fait également que les patients qui arrivent dans les centres de santé ne sont pas pris en charge quand ils n'ont pas suffisamment de liquidité financière sur eux. Et les médecins qui estimaient à leur niveau qu'ils n'avaient aucune information sur ce patient. Donc moi, tout de suite, ce que j'ai retenu, c'est le manque d'informations parce que c'est une histoire qui me parle dans la mesure où moi, enfant, j'étais épileptique et je rencontrais ces difficultés. Donc j'ai juste récupéré cette partie qui est importante, qui pour moi dure un peu trop longtemps, c'est dire que de nombreuses personnes professionnelles de santé sont confrontées comme ça à des situations où on ignore tout sur le patient.
C'est ça. Alors en fait, le principe, c'est qu'on a sur soi un petit objet connecté, hein, et dessus, je ne sais plus si on l'a autour du cou ou...
Oui, on l'a, qu'il soit en bracelet sur le bras, soit en médaille également sur le
bras. Vous trimballez avec tout votre dossier médical dans cet objet connecté qui est relié à une plateforme. Non, mais c'est assez génial. Vous avez gagné un grand nombre de prix. Est-ce que ça veut dire que votre entreprise, que votre start-up est totalement lancée?
Alors oui, j'ai gagné de nombreux prix. Je ne dirais pas qu'elle est totalement lancée. Je dis qu'elle est en train de... Elle continue de se lancer, je dirais. Parce que les prix nous ont permis d'avoir de la visibilité, elles m'ont permis de pouvoir avoir des grants. Moi, ces grants là m'ont essentiellement permis de pouvoir continuer à développer, travailler en termes de recherche et développement. Parce qu'on n'a pas eu vraiment...
Déjà qu'on vous prenne au téléphone au ministère de la Santé, peut-être.
Oui, par exemple, déjà, parce que c'est vrai qu'on m'avait chassé au tout début. Mais là, aujourd'hui, ça m'a permis de grandir. Et puis, ce serait peut-être un plaisir pour M. Akwete qui m'a donné beaucoup de conseils, qui voit aujourd'hui, par exemple, que je rentre dans les SIH, donc le système informatisé hospitalier aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui travaille avec moi dorénavant. Donc, oui, ça n'a pas été évident, mais bon, voilà.
Ouais, et ça, c'était évidemment un pas déterminant hein, de rentrer dans ce système informatique hospitalier. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés qui restent devant vous?
Aujourd'hui, l'un des plus gros, c'est surtout le changement de comportement. Il demeure encore et encore parce que l'informatisation pour les acteurs de santé, c'est pas la première approche pour eux. Je vais dire que ce n'est pas le premier investissement de pouvoir acquérir des outils informatiques. Donc, ils veulent bien, mais n'ont pas forcément la logistique qui va avec. Après, c'est surtout le plébiscite, on va dire pour nous, institutionnel. On encourage à l'entrepreneuriat, on encourage à l'innovation, on encourage à vraiment à vouloir avoir des champions nationaux. Mais on ne leur permet pas l'accès vraiment au marché. Donc, c'est moi le plus gros challenge pour nous. C'est beaucoup plus important que l'accès au financement. Parce qu'avoir de l'argent et ne pas avoir des marchés, c'est plus difficile.
Vous êtes d'accord avec ça, Eric Kakou? Quand on dit que la Côte d'Ivoire pourrait être une nouvelle start-up nation du continent, quelle est la réalité à la lumière de ce que raconte Corinne Ouattara qui nous dit « mon problème, ce n'est pas l'accès au financement, surtout quand on a gagné des prix, on a déjà des petits fonds d'amorçage, mais c'est l'accès au marché ».
Écoutez, je pense clairement que l'accès au marché, en fait, est un sujet parce qu'en réalité, la vocation de l'entrepreneur, en fait, c'est d'utiliser, en fait, ses marchés pour se financer. Donc, l'idée, ce n'est pas vraiment d'aller prendre des crédits ou lever du capital à des taux mirobolants. Pour fournir le client, idéalement, il faudra avoir des marchés qui soient profitables, où on est payé à temps pour pouvoir réellement pouvoir développer son business. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Corinne de ce point de vue-là. Maintenant, je pense que quand on parle de Startup Nation, c'est peut-être intéressant de repartir un peu, en fait, aux origines. Je pense qu'Israël est une belle nation qui illustre bien ce qu'on peut faire avec des startups. Je pense aussi, en fait, à la Californie.
Ou la composante innovation technologique est extrêmement importante.
Oui, ou Bangalore en Inde.
Exactement. Quand on prend par exemple une région comme la Californie, c'est quand même 3,6 trillions, donc milliers de milliards de dollars d'économie juste pour la Californie. Oui. C'est la moitié de la population de la France, mais c'est une économie beaucoup plus grande que celle de la France.
Oui, avec quelques fragilités en ce moment, hein, vous en conviendrez.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire parfaite. Mais par contre, je pense que justement, la base un peu de tout ça, c'est la connaissance. Donc, ce que je pense que l'Israël et la Californie ont en commun, c'est un gros investissement dans la formation de base, dans les formations techniques, dans la recherche scientifique, qui fait que derrière, c'est plus facile.
Non, mais ce que disait Eric, effectivement, il y a une composante écosystème pour accompagner ce qu'on appelle une start-up nation, avec une capacité d'innovation, des entrepreneurs qui arrivent, un écosystème de financement qui peut prendre le risque, et comme on dit après, scale, donc faire grandir, et donc... Tout le monde n'est pas Startup Nation.
L'Afrique anglophone a quand même une longueur d'avance, notamment en termes d'accès au financement. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Égypte qui domine avec 75% des fonds levés. Est-ce que ça veut dire aussi que ces pays-là parviennent à lever plus de fonds parce qu'il y a plus de ressources, plus d'innovations technologiques, plus de ressources humaines extrêmement bien formées, ce dont parlait Eric Kakou?
Il y a une question de taille de marché aussi. Vous voyez, prenez le Nigeria, l'Égypte, le Kenya. Donc, il y a un effet marché qui fait que lorsque vous voulez scale up, comme on dit, faire grandir votre concept, vous avez tout de suite accès à un marché qui intéresse un investisseur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'on le dise ou non, ce sont des marchés quand même où l'entrepreneurship est quelque chose qui est tout à fait accepté comme une composante du développement de ces pays. Alors que beaucoup de pays francophones, c'était l'administration, le service public, jusqu'à ce que les plans d'investissement structurel arrivent, qu'on comprenne en fait c'est le secteur privé qui prend la relève. Or, ces pays-là ont une expérience du secteur privé, à mon avis, qui est beaucoup plus forte et donc qui crée aussi une taille d'entrepreneur avec un peu d'expérience qui attire aussi des investisseurs. Donc, marché, environnement, écosystème, et puis aussi quand même, il faut noter que dans la plupart de ces pays, certaines start-up ne sont pas forcément des start-up créées par des Africains, mais plutôt des entrepreneurs qui viennent de la Silicon Valley ou qui viennent d'autres marchés émergents, qui viennent s'installer dans ces régions.
Donc
et
ça,
qui
ça,
viennent
ça
aussi
penche du côté
avec
du mythe,
des investisseurs. Donc, disons... Quand on prend les chiffres, on dit voilà, on est passé, je ne sais pas, à 5-6 milliards de dollars d'investissement dans les start-up, je crois en 3 et 6. Quand on prend ces données-là, ce n'est pas que des entrepreneurs locaux, des start-upers locaux qui ont bénéficié de ces financements.
Eric Kakou, que prévoit la loi sur la promotion start-up numérique en Côte d'Ivoire qui a été récemment adoptée? Est-ce que c'est un pas pour un développement, pour un accompagnement, un ressort plus rapide pour les start-up dans un pays, évidemment, malgré tout, quand même, de taille modeste par rapport au Nigeria ou à l'Égypte en termes de marché?
Écoutez, absolument. Je pense que la loi, la Startup Act, en fait, qui a été adoptée, qui est d'ailleurs calquée sur les meilleures pratiques dans le domaine, non seulement en Afrique, mais au-delà, est un pas résolument, en fait, qui va, en fait, en avant. Mais je dirais qu'au-delà de cette Startup Act-là, il y a d'autres éléments assez concrets qui ont été mis en œuvre, notamment la mise en place du guichet unique pour le développement de l'entrepreneur, qui est une structure en fait calquée un peu sur BPI France, qui regroupe à la fois des solutions de financement à travers une solution de garantie et facilitation des financements bancaires, mais aussi de l'accompagnement en fait aux PME. Donc je pense que vraiment, oui, le cadre légal avec le Startup Act s'est amélioré, mais au-delà de ça, il y a aussi une institution maintenant vers laquelle en fait les startups peuvent se retourner pour avoir accès à la bonne combinaison de financement et d'accompagnement nécessaire.
Corinne Ouattara, est-ce que vous, vous ressentez ces changements positifs pour le développement de votre propre startup ?
Alors, bon, je dirais que oui. Depuis quelques mois, je dirais que oui. J'ai vrai que je m'en plaignais beaucoup du fait qu'on ne le sente pas. Mais depuis un certain moment quand même, oui, il y a cette volonté de pouvoir, comme l'a dit Monsieur Akwete, de pouvoir avoir des produits made in locaux. C'est ça le plus important aussi. Parce que parler de start-up, pour moi, ça n'a pas son sens quand on prend des start-up à l'étranger. Je ne veux pas vraiment faire de la discrimination, mais laisser des entrepreneurs, des start-up locales et prendre celles de l'extérieur pour les faire émerger et en faire des champions, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Et c'est surtout travailler sur des locaux. Et depuis un moment, oui, moi, j'ai été très heureuse de voir le ministère de la Santé m'intégrer dans le SIH. C'était pour moi l'aboutissement d'un gros travail. Et demain, surtout en avant, du made in local, parce que si on fait la promotion de l'entrepreneuriat, si on parle de Startup Nation, il faut qu'on essaie de voir, comme l'a dit tout à l'heure les deux intervenants, ceux qui sont vraiment partis depuis l'idéation, qui ont travaillé sur des projets, qui ont passé. J'ai entendu tout à l'heure Monsieur Akwete dans l'émission tout à l'heure parler de la vallée de la mort, qui ont traversé tout ça,
oui.
Mais qui sont restés.
Vous en êtes
quand
où,
même,
vous, dans la vallée de la mort, alors finalement, Corinne Ouattara?
Alors, je peux dire quand même que je suis quand même sortie de cette vallée, parce qu'à un moment donné, vraiment, j'avais l'impression de fermer, je ramais.
Vous arrivez à vous payer vous-même, à
oui,
payer vos employés?
Oui, depuis. Alors, j'ai toujours réussi à les payer, parce qu'au-delà, avec le projet, quand même, on arrivait à faire de l'audit des centres de santé, quand même, au niveau de la gestion des patients. Donc, il y avait certains services qu'on avait intégrés, mais le plus important du projet, je n'arrivais pas vraiment.
C'est ça. Vous aviez une activité qui permettait de rentrer du cash, mais pas de développer le cœur de votre start-up.
Mais aujourd'hui, on arrive à le faire. Depuis le mois d'octobre dernier, oui, ça a changé.
Éric Cacou, selon vous, quels sont les principaux domaines dans lesquels les start-up ne sont plus un mirage, mais ont acquis une vraie légitimité, une vraie réalité économique, des start-up qui font du chiffre d'affaires aujourd'hui? Dans quel domaine, Éric Cacou?
Si je regarde en fait les 150 à 200 jeunes entrepreneurs que mon entreprise ES Partners accompagne chaque année en Côte d'Ivoire, je dirais que nous en voyons quand même pas mal dans le domaine de l'agribusiness. C'est l'un des secteurs dans lequel la Côte d'Ivoire a énormément investi dans la connaissance, avec des institutions comme l'INPHB, notamment l'ESA. Et parce qu'on a une économie agricole où il y a pas mal vraiment de produits et de débouchés, on voit quand même pas mal d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs en fait ivoiriens dans ce domaine-là qui tirent leur épingle du jeu.
Donc des startups qui transforment des matières premières produites en Côte d'Ivoire?
Exactement. Et je pense que clairement dans le domaine agricole, il y a pas mal de choses possibles. Et je pense aussi que dans le domaine des technologies liées à l'agriculture, on a par exemple un jeune entrepreneur, Aboubakar Karim de Investiv, qui travaille dans le domaine des drones pour l'agriculture et qui réussit pas mal, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en fait au-delà.
Didier Akwete.
Non, effectivement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de secteurs où on voit émerger des start-up sur le continent, comme ce que dit Eric, notamment l'agro-business. L'agro-business, c'est la transformation, effectivement, des produits locaux. Maintenant, on n'a pas encore des grandes marques africaines où on est parti de start-up. Ça va probablement venir, mais on le voit comme la jeune dame qu'on avait au Gabon et qui, aujourd'hui, développe beaucoup...
Transformation de fruits, hein, confiture.
De l'Ogoué. Donc, on voit de plus en plus, vous allez à Accra, Nairobi. Maintenant, c'est vrai, il faut scaler et avoir vraiment des vrais champions de l'agro-industrie qui ont la partie service, appui à l'agro. On en a de plus en plus.
Mais qu'en est-il
tout
des startups qui ont une composante très tech, ouais, justement,
tout ce
très
qui est
digital
tech. Alors justement, tout ce qui est paiement digital, alors c'est en pleine évolution.
Les fintechs.
Les fintechs et les investisseurs mettent beaucoup d'argent parce qu'effectivement, quand vous avez des taux de bancarisation aussi faibles, il y a un besoin, il y a un marché. Bon, on ne va pas parler du Kenya où M-Pesa est connu depuis tellement longtemps, mais tout ce qui est paiement digital a énormément le vent en poupe et il reçoit beaucoup de financements. Tout ce qui est logistique, notamment transport urbain aujourd'hui aussi, vous voyez la saturation des villes et donc beaucoup de start-up ont pris l'exemple de ce qu'on appelait l'ubérisation en général, mais les modes de transport, on voit beaucoup de start-up dans des petites villes même comme, comme Lomé, Abidjan, Nairobi,
on voit beaucoup de création d'entreprises, on voit beaucoup de start-up qui se montent, mais Eric Kakou, est-ce que pour autant, la réussite économique est en rendez-vous sur ces autres secteurs, notamment des start-up qui ont une composante digitale, une composante technologique assez élevée et pas toujours facile à rendre compatible avec le continent africain finalement?
Écoutez, je pense que ça demeure vraiment le gros point d'interrogation. Je pense que clairement, ça vaut la peine en fait d'investir dans le domaine des technologies, mais je crois quand même que on est souvent dans des environnements où réellement la qualité d'innovation technologique qui est nécessaire pour pouvoir avoir vraiment une start-up pérenne dans des marchés qui sont très petits, avec des systèmes éducatifs fragiles, ce n'est pas très, très évident. Donc pour moi, oui, j'entends quand on liste un peu les secteurs en fait, qui attirent le financement, mais pour moi, je me dis quand même que quand on regarde la technologie vraiment en fait, à fond, là où ça marche, il y a des brevets derrière. Là où ça marche, il y a vraiment de la recherche fondamentale derrière. Et là où ça marche aussi, il y a beaucoup d'expérience dans la transformation de cette recherche-là en produits que les clients peuvent utiliser. Et malheureusement, on n'a pas d'écosystème de la connaissance aujourd'hui dans nos pays qui permettent facilement de faire ça. Je pense que c'est quelque chose dans lequel on doit investir, mais c'est quelque chose en fait sur lequel je pense qu'on n'est pas encore. Je pense qu'un bon exemple, c'est peut-être l'exemple du Rwanda, qui aujourd'hui, par exemple, est en train de faire pas mal de partenariats avec des universités de pointe et qui donc, je me dis, à disons 5 ans, 10 ans, aura certainement des innovations qui vont tenir la route.
Mais alors, un conseil pour ceux qui ont un projet de start-up finalement collé à l'agribusiness pour avoir davantage de sécurité de réussite?
Écoutez, nous, ce qu'on voit de façon vraiment pratique, il y a pas mal de demandes, en fait, des chaînes de supermarchés locales et internationales vis-à-vis des produits agribusiness très locaux. Donc, j'ai vu, en fait, Didier citer les petits pots de Logoué. C'est d'ailleurs un business avec lequel on est familier parce qu'il participe à un des programmes qu'on anime au Gabon.
Enfin, on est en pleine explosion de l'inflation sur les produits alimentaires, là, quand même. Je me demande si vous n'êtes pas un peu déconnecté, non?
Non, au contraire. On va vers la production locale de plus en plus. On répond à ce besoin, justement.
Ah, d'accord, c'est quand même des produits de niche qui sont vendus très cher.
Alors, justement.
Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que dans le portefeuille que nous, on a des gens qui font des produits de base, qui font des chips, qui font... Il y a pas mal de choses quand même qui existent dans le domaine agricole. Donc, la déclinaison en termes de produits, ce n'est pas forcément des produits juste pour les riches, en fait. C'est vraiment des produits qui touchent...
Donc, malgré l'inflation, il faut croire en l'agribusiness pour le développement des startups.
Bien sûr. Et on l'a vu
absolument
pendant...
parce que c'est d'ailleurs des matières qu'on produit localement. Donc, au moins, on a l'avantage que ça ne vienne pas de l'Ukraine. Donc, du coup,
effectivement. Non, mais ce que dit Eric, c'est vrai, parce que même pendant la période Covid, la crise Covid, on l'a vu, la demande locale a explosé parce que justement, on a des produits locaux qui sont peu transformés et toutes ces startups qu'on voit, la question, c'est vraiment de passer à l'échelle et vous verrez que les coûts vont baisser aussi. Le marché est tellement vaste qu'il y a une niche pour tout le monde.
Le marché est vaste, ce sont aussi des circuits de distribution qui sont bien adaptés pour l'urbanisation. Hein.
Mais parfois spécialisés. Si vous allez en supermarché en Afrique acheter une confiture, je ne sais pas, à une boîte à 3000 CFA, vous pouvez tout à fait acheter une confiture locale à 3000 francs CFA aussi, avec des ingrédients naturels. Donc, c'est pas si déconnecté que ça de la réalité.
Eric Kakou, un dernier mot.
Didier, laisse-moi donner vraiment deux exemples concrets, ok? Il y a par exemple Ava Café, ok, qui produit du café moulu, qui est vendu dans un réseau de distribution complètement informel, dans des pays qui... C'est un produit qui est fait en Côte d'Ivoire, qui couvre la Guinée, le Mali, jusqu'au Nigeria, ok? Et c'est basé vraiment sur les kiosques à café, là, traditionnels. C'est un bon exemple. Un deuxième exemple, en fait, c'est un certain nombre de personnes qui font aujourd'hui, en fait, des produits de farine pour bébé, ok? Des farines, en fait, fortifiées et enrichies, qui touchent vraiment le bas de la pyramide. Donc, je pense que vraiment, dans l'agribusiness, ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas mal d'innovations qui vont du haut de gamme jusqu'au produit pour tout le monde.
Merci à vous, Eric Kakou. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous êtes économiste ivoirien, fondateur de la société ES Partners. Et merci aussi à vous, Corinne Ouattara, directrice générale de Maurice Communication Marketing avec le Pass Santé. Mousseau, on vous souhaite très bonne chance. Didier, à côté, avant qu'on se quitte, un rendez-vous à signaler et à ne pas manquer, Afrique Talent à Paris, qui se renouvelle totalement.
Ah, complètement, complètement, qui revient au mois de mai en partenariat avec l'African Business Club. Et ça va se décliner sur 4 jours au mois de mai, les 10, 11, 12 et 13 mai, avec une journée spéciale consacrée aux seniors, donc aux cadres expérimentés de plus de 6 à 7 ans d'expérience. Une journée spéciale pour les jeunes diplômés, les juniors, parce qu'il y a une demande pour ces différents segments de marché. Une journée spéciale dédiée au leadership féminin et justement toutes ces femmes qu'on veut voir dans les fonctions de direction générale de conseil d'administration. Et puis une dernière journée, le 13 mai, dédiée aux entrepreneurs avec des remises de prix, cette partie organisée spécialement par l'African Business Club. Et donc, il y a toute une communication qui va démarrer pour que les porteurs de projets puissent participer avec des remises de prix et du coaching. Mais c'est une innovation majeure, c'est sur 4 jours.
Et tous les entrepreneurs sont concernés s'ils sont sur place à Paris, les 10, 11, 12 et 13 mai, ça se passera à...
Alors, il y a une partie au Hilton à Défense, et une partie à l'ESCP, et tout ça sera sur le site Afrique Talent et celui de l'African Business Club, évidemment. Donc merci. C'est un grand rendez-vous à ne pas rater cette année.
Merci beaucoup Didier Acouté, merci à toute l'équipe de 8 milliards qui prépare cette émission. Et justement, lundi, 8 milliards de voisins, on parlera de l'emploi des seniors en France, puisque ça y est, il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, sauf que la France a l'un des plus bas niveaux d'emploi des seniors en Europe. Alors est-ce qu'il y a un problème culturel dans les entreprises qui freine l'emploi des plus de 55 ans et bien pire après 60 ans ? Un salarié est-il jugé trop cher pour une entreprise par rapport à un salarié de 45 ans, moins performant ? Comment ça se passe ailleurs en Europe, aux États-Unis ? Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Et dans quelques instants, ce sera le journal. Et ça sera juste après l'indétrônable Fally Ipupa. Il a 45 ans, c'est un senior.
Ah bah effectivement.
Allez Fally, c'est à vous.
Sid Boy, Manza Kamalion, King Esca. Yavsana, the boss lady. Atababandeli mokili mille fois. Je te choisirai toujours à chaque fois. Ayeba ki okozala mama yabana. Motema nange beta ki quand je t'ai vu. Afsana, boss lady of Minama World. Sit boy, tu connais ma faiblesse. Afsana, oyebi ke na lela yo. Na. Boy. Je me battrai toujours pour toi, malgré Mandra Kamaliona. Monte mananga ne anio. Mini sana gauche à droite, Afsana. Ah, Wamba, Afsana. To the left, to the right, Afsana. To chouke, to pande. I love you, Afsana. I need you, Afsana. I love you, sit boy. I need you, sit boy. I love you, Afsana. Mama banananga, Afsana. Chikana memelo breakfast na mbeto. Afsana, wewe ni malaika. Bebe tela meya, mama. Mina kupenda sana, Afsana. Je remercie le ciel. Merci Nzambe. Afsana za benediction pona nga. King Eska Sipoy. À droite, Afsana. Ah, Wamba, Afsana. To the left, to the right, Afsana. To chouquer, to pande. I love you, Afsana. I need you, Afsana. I love you, sit boy. I need you, sit boy. Où que j'aille, Afsana. Où que je sois, Afsana. Elle me fait vibrer,
milliards de voisins, c'est fini.